shun yao.
Lu shun, le remède. Traduit par Brigitte Duzan. C'était une nuit d'automne aux petites heures du matin. La lune était couchée, mais le soleil ne s'était pas encore levé. Il ne restait qu'un pan de ciel bleu sombre. Hormis les animaux nocturnes, tout était endormi. Hua Laoshuan se redressa soudain dans son lit, frotta une allumette et alluma une lampe à huile toute graisseuse qui emplit les deux pièces de la maison de thé d'une lueur blafarde.
« Alors tu t'en vas ?»
dit une voix de femme âgée. Dans la petite pièce à côté, quelqu'un eut soudain une canne de toux. « Oh !» répondit Lao Shuan, tout en écoutant et en attachant les boutons de sa veste. Puis, tendant la main, il ajouta « Donne !» Hua Tama, après avoir fouillé un moment sous son oreiller, en tira un paquet de pièces d'argent qu'elle donna à Lao Shuan. Celui-ci le fourra d'une main tremblante dans sa poche qu'il palpa ensuite deux fois. Il alluma alors une lanterne, souffla la flamme de la lampe à huile et se dirigea vers le milieu de la pièce. Il en parvenait un léger sifflement, brusquement interrompu par une violente canne de toux. Lao Shuan attendit qu'elle se soit calmée pour murmurer tout bas. Xiao Shuan, petit Shuan, tu n'as pas besoin de te lever. La boutique, ta mère va s'en occuper. Comme son fils ne répondait plus rien, il supposa qu'il s'était paisiblement rendormi, et il sortit. Il faisait encore nuit noire et la rue était déserte. On ne pouvait distinguer que la bande grisâtre de la chaussée. La lumière de la lanterne éclairait le sol juste devant et derrière ses pieds. Il rencontra bien quelques chiens, mais pas un n'aboya. Il faisait beaucoup plus froid dehors qu'à l'intérieur de la maison. Lao Shuan se sentait pourtant frais et dispos, comme s'il avait brusquement rajeuni et retrouvé l'énergie de sa jeunesse, comme s'il avait le pouvoir d'insuffler la vie, et il allongeait d'autant le pas. Le ciel, en outre, était de plus en plus clair, si bien que la rue se voyait de mieux en mieux. Alors qu'il marchait, absorbé dans ses pensées, Lao Shuan fut soudain pris de frayeur en voyant au loin apparaître la diagonale très nette d'un croisement. Il fit quelques pas incertains en arrière pour aller se blottir sous l'auvent d'une boutique encore fermée, et resta là, appuyé contre la porte. Au bout d'un moment, il sentit le froid le gagner. Brouh. Tiens, un vieil homme. Il a l'air content, lui. Lao Shuan fut à nouveau pris de frayeur. Écarquillant les yeux, il vit quelques individus passer devant lui. L'un d'entre eux tourna la tête vers lui. Il ne distinguait pas très bien son visage, mais il lui sembla soudain que, dans ses yeux, passait un éclair d'avidité. Comme quelqu'un qui aperçoit soudain de la nourriture après avoir souffert de la faim pendant longtemps. Jetant un coup d'œil sur sa lanterne, Lao Shuan remarqua qu'elle s'était éteinte. Il tâta sa poche. Le paquet dur y était bien. Levant la tête pour regarder autour de lui, il aperçut un grand nombre de gens étranges déambulés comme des âmes en peine, par groupe de deux ou trois. En les regardant avec plus d'attention, cependant, il ne put remarquer aucune anomalie particulière. Un instant plus tard, il vit aussi quelques soldats venir de loin. Même à distance, il pouvait parfaitement distinguer le cercle de tissu blanc sur le dos et le devant de leur uniforme, ainsi que, lorsqu'ils passèrent devant lui, les bordures rouges sombres qui y étaient cousues. Dans un bruit de pas trépidant, une masse de gens s'attroupa en un rien de temps. Ceux qui marchaient par groupes de deux ou trois se rassemblèrent bientôt en une foule compacte, et tous ces gens se mirent à déferler comme une vague. Arrivés au croisement, ils s'arrêtèrent en formant un demi-cercle. Lao Shuan avait beau regarder, il ne pouvait voir que les dos de cette foule de gens qui tendaient le cou autant qu'ils pouvaient, comme d'innombrables canards tenus par une main invisible qui leur aurait tiré la tête vers le haut. Le silence se fit un bref instant, puis il y eut comme une détonation, et la foule s'ébranla, reculant dans un bruit confus, et se dispersant jusqu'à l'endroit où se trouvait Lao Shuan, le renversant presque au passage.
Hé ! Tu nous donnes l'argent et on te donne la marchandise !
Dit un homme tout en noir qui s'était planté devant Lao Shuan, lequel se recroquevilla en sentant les deux yeux de l'homme vriller sur lui, comme des lames de poignard. L'homme avait une main tendue, énorme, et de l'autre tenait un petit pain imbibé d'une substance rouge vif qui dégoulinait par terre goutte à goutte. Lao Shuan s'empressa d'attraper son argent dans l'intention de le lui donner, mais il n'osait pas se saisir de la chose que tenait l'autre. Alors l'homme s'énerva et lui cria :
« Tu as peur de quoi ? Tu ne peux pas le prendre ?»
Comme Lao Shuan hésitait encore, l'homme en noir lui arracha sa lanterne des mains, en déchira le papier et en enveloppa le petit pain qu'il fourra de force dans la main de Lao Shuan. Sur quoi il prit l'argent, le palpa, tourna les talons et partit en grommelant dans sa barbe :
« Vieil idiot !»
Lao Shuan eut l'impression d'entendre quelqu'un lui demander :
« C'est pour soigner quelle maladie ?»
Mais il ne répondit rien, toute son attention maintenant concentrée, à l'exclusion de toute autre préoccupation, sur ce paquet qu'il tenait comme s'il s'agissait d'un nouveau-né, unique héritier d'une vieille famille de 10 générations. Il allait maintenant transplanter dans sa propre famille la vie nouvelle qu'il contenait et récolter l'immense bonheur qu'il promettait. Le soleil s'était levé, éclairant devant lui une vaste avenue qui menait directement chez lui, et derrière lui, au croisement, un panneau abîmé sur lequel était inscrit, en lettres d'un or terni, les 4 mots suivants : Pavillon des jours anciens. Lorsque Lao Shuan arriva chez lui, la maison de thé était déjà nettoyée et rangée, et les tables soigneusement alignées et astiquées brillaient de tout leur éclat. Il n'y avait cependant encore aucun client. Il n'y avait que le jeune Xiao Shuan, assis à une table d'une rangée du milieu, en train de manger en transpirant à grosses gouttes. La sueur lui dégoulinait sur le front, et sa veste doublée lui collait dans le dos, faisant apparaître en haut 2 omoplates saillantes qui dessinaient en relief la forme d'un V renversé. En le voyant ainsi, Lao Shuan ne put s'empêcher de froncer les sourcils. Sa femme accourut de la cuisine et le regarda fixement, les lèvres tremblantes.
« Tu l'as ?»«
Oui. » Tous deux entrèrent dans la cuisine et discutèrent ensemble un moment. Watama ressortit et revint peu de temps après en tenant à la main une feuille de lotus sèche qu'elle étendit sur la table. Lao Shuan ouvrit le papier de la lanterne et en sortit le petit pain rouge pour l'envelopper dans la feuille de lotus. Comme Xiao Xuan avait fini de manger, sa mère lui cria précipitamment.
« Xiao Xuan, reste assis, ne viens pas ici !»
Après avoir ranimé le feu dans le fourneau, Lao Xuan y mit à la fois le petit paquet vert émeraude et le papier déchiré blanc et rouge de la lanterne. Une flamme d'un rouge sombre s'en dégagea, et une odeur étrange se répandit dans la salle de la maison de thé.
Ça sent bon. Qu'est-ce que vous mangez là ?
C'était le jeune bossu de la famille Wu qui venait d'arriver. Il passait toutes ses journées dans la maison de thé. Arrivé le premier le matin, il repartait le dernier le soir. À ce moment-là, précisément, il venait de clopiner jusqu'à une table située dans un angle du côté de la rue et avait posé sa question après s'être assis. Mais personne ne lui répondit.
« Du gruau de riz soufflé ?»
Toujours pas de réponse. Lao Xuan sortit précipitamment pour aller lui préparer du thé.
« Xiao Xuan, viens ici !»
cria Hua Tama, qui l'appelait de l'autre pièce. Elle avait mis un tabouret au milieu pour y faire asseoir son fils, et, arrivant en tenant une petite assiette où était posée une chose ronde, noire comme du charbon, elle lui dit tout doucement
« Mange ça, ça va te faire du bien !»
Xiao Xuan prit la chose noire et l'examina un instant, avec, sans pouvoir bien se l'expliquer, le sentiment étrange de tenir son existence entre ses mains. Il l'ouvrit avec un soin extrême, et de dessous la croûte calcinée s'échappa une vapeur blanche, qui, une fois dissipée, laissa apparaître les deux moitiés d'un petit pain fait avec de la farine blanche. Il n'en fit qu'une bouchée, après quoi il en oublia jusqu'au goût. Il ne restait devant lui qu'une assiette vide. Près de lui se tenait d'un côté sa mère, de l'autre son père, leurs regards donnant l'impression qu'ils voulaient tous les deux lui injecter quelque chose dans le corps, et en même temps lui en retirer quelque chose. Son cœur se mit à battre sans qu'il pût rien y faire, et les mains pressées sur sa poitrine, il se mit à tousser.
Va dormir un peu, ça va aller mieux.
Xiao Xuan écouta sa mère et alla dormir, toujours toussant. Hua Tama attendit qu'il ait une respiration régulière pour le couvrir doucement d'une couette toute reprisée. Il y avait pas mal de monde dans la maison de thé. Très occupé, Lao Xuan passait avec une théière en cuivre pour verser sans cesse du thé au client. Il avait les deux yeux cerclés de cernes sombres.
Lao Xuan, tu as quelque chose qui ne va pas ? Tu as attrapé quelque chose ?
Demanda un homme à la barbe grisonnante.
Non. Non ? Je pensais que tu serais rayonnant, on ne dirait pas.
L'homme à la barbe grise ne termina pas sa phrase.
C'est juste que Lao Xuan a du travail. Si son fils...
Le bossu n'acheva pas sa phrase non plus. Venait de faire irruption un homme au visage antipathique, vêtu d'une chemise de toile noire ouverte sur la poitrine et retenu négligemment à la taille par une large ceinture noire. À peine avait-il franchi la porte qu'il cria à Lao Xuan.
Il l'a mangé, ça va mieux ? Lao Xuan, tu as vraiment de la veine ? Tu as de la veine ? Parce que si je n'avais pas l'habileté nécessaire pour être au courant de tout...
Tenant la théière d'une main, Lao Xuan se figea dans une attitude respectueuse et accueillit ces paroles par un grand sourire. Tous les gens qui étaient assis là écoutaient eux aussi avec le plus grand respect. Ua Tama, les yeux cernés elle aussi, mais le visage rayonnant, apporta une tasse avec des feuilles de thé auxquelles elle avait ajouté une olive, et Lao Shuan vint y verser de l'eau bouillante.
L'effet est garanti. Ce n'est pas comme le reste. Tu imagines rapporter tout chaud et manger tout de suite ?
Cria l'homme à la mine antipathique qui ne savait parler qu'à tue-tête. Ua Tama le remercia avec gratitude.
C'est bien vrai. Si Monsieur Kang ne nous avait pas accordé son aide, comment aurions-nous pu
manger chaud ainsi ? L'effet est garanti, l'effet est garanti.
Des petits pains comme ça, trempés dans du sang humain, ça guérit n'importe quel tuberculeux.
En entendant ce mot de tuberculeux, Ua Tama blêmit comme sous l'effet d'un mécontentement soudain. Mais elle reprit vite son sourire et, après quelques mots d'excuse, quitta la pièce. Le monsieur Kang en question, cependant, n'y fit pas attention et continua à vociférer en élevant encore la voix. Le jeune Xiao Xuan dans la pièce à côté, l'accompagnant en dormant de ses cannes de toux.
Il faut dire que votre Xiao Xuan a vraiment de la veine. Il va complètement guérir, c'est sûr. Pas étonnant que Lao Xuan soit aussi rayonnant,
dit l'homme à la barbe grise qui, tout en parlant, s'était approché de Kang et lui demanda à voix basse.
Dites-moi, j'ai entendu dire que le criminel qui a été exécuté aujourd'hui était un fils de la famille Xia. Mais c'était lequel ? Qu'est-ce qu'il avait fait au juste ?
Lequel ? Mais le fils de la vieille Xia, bien sûr, ce jeune vaurien. Voyant que tout le monde l'écoutait avec attention, Kang se rengorgea et le visage bouffi de satisfaction cria plus fort que jamais.
Ce jeune bon à rien avait décidé d'en finir avec la vie, c'est tout. Mais moi, dans l'histoire, je n'ai rien gagné. Même les vêtements qu'il portait, ils sont allés au directeur de la prison. Celui qui a eu le plus de veine dans tout cela, c'est ce vieux Lao Xuan. Et le deuxième vénard, c'est le grand-père Xia. Lui, il a touché la récompense. 25 taels d'argent blanc comme neige qu'il a empoché à lui tout seul, sans avoir à débourser un centime.
Xiao Xuan sortit lentement de la pièce voisine, les deux mains pressées sur la poitrine, en toussant sans pouvoir s'arrêter. Il s'approcha du fourneau, se servit un bol de riz froid, versa de l'eau chaude dessus et s'assit pour manger. Ua Tama l'avait suivi et lui demanda tout doucement.
« Xiao Xuan, tu te sens mieux ? Tu as toujours aussi faim ?»«
L'effet est garanti ! L'effet est garanti !» cria Kang en lançant un clin d'œil à Xiao Xuan.
Puis il se tourna vers la foule des clients et leur dit.
Le père Xia est vraiment quelqu'un de malin. S'il n'avait pas pris les devants et informé les autorités, toute sa famille aurait été liquidée et ses biens confisqués. Alors que maintenant, il a l'argent. Ce garçon, c'était vraiment un bon à rien. En prison, il a même essayé de pousser le gardien à la rébellion.
Ah, vraiment, c'est incroyable, dit l'air indigné un jeune homme d'une vingtaine d'années qui était assis à l'une des dernières rangées de table.
Il faut aussi que vous sachiez que le directeur de la prison est allé l'interroger pour le sonder, mais il s'est mis à discuter avec lui. Il lui a dit que tout ce que l'empire des Qing possédait ici-bas était notre bien à tous. Imaginez un peu, est-ce là des propos sensés ? Le directeur de la prison savait bien qu'il n'avait plus que sa vieille mère, mais jamais il n'aurait pensé qu'ils étaient si pauvres, on ne pouvait pas en tirer un centime. Alors il était déjà passablement en colère. Comme l'autre dépassait les limites, il lui a envoyé une paire de claques.
Le directeur est un bon boxeur, ces deux gifles, elles ont dû lui faire mal,
dit le bossu dans son coin, l'air brusquement tout réjoui.
Le vaurien n'avait pas peur des coups, Il a même dit que c'était pitoyable, pitoyable.
Que pareil vaurien reçoive une bonne correction, il n'y a pas de quoi avoir pitié, dit l'homme à la barbe grise.
Kang lui lança un regard méprisant et dit avec un rire glacial.
« Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. À la manière dont il a dit cela, il était évident que c'était du directeur qu'il parlait en disant « pitoyable ».
Les regards brusquement se figèrent. La discussion aussi s'interrompit. Xiao Xuan avait fini de manger. Il en avait le visage tellement couvert de sueur qu'il s'en dégageait de la vapeur.
« Le directeur pitoyable. Faut être fou pour dire ça. Faut croire qu'il était devenu fou, »
dit l'homme à la barbe grise, comme sous le coup d'une illumination subite.
« Il était devenu fou, »
répéta le jeune homme d'une vingtaine d'années, comme frappé lui aussi d'une soudaine illumination. L'ambiance redevint très animée dans la boutique, tout le monde se mettant à nouveau à parler et à rire. Xiao Xuan, profitant du tumulte général pour tousser à rendre l'âme, Kang s'approcha de lui pour lui taper sur l'épaule en lui disant
« L'effet est garanti, Xiao Xuan. Tu ne vas plus tousser comme ça. L'effet est garanti. »
« Il était devenu fou, » dit le bossu en hochant la tête.
La zone près du mur d'enceinte à l'extérieur de la porte de l'ouest était à l'origine un terrain à usage public. Au travers passait un étroit chemin tortueux qui avait été tracé par les semelles de tous ceux qui passaient par là en cherchant un raccourci. Mais c'était devenu une frontière naturelle. À gauche, on enterrait les condamnés à mort et ceux qui étaient morts en prison. À droite étaient les tombes des pauvres. D'un côté comme de l'autre, les tombes étaient disposées en rang serré, comme les petits pains alignés lors de la cérémonie d'anniversaire de quelques riches propriétaires. Pour la fête des morts début avril cette année-là, il faisait un froid inhabituel. Les saules et les peupliers n'avaient encore que de petits bourgeons de la taille d'un demi-grain de riz. Peu après le lever du jour, Hua Tama était déjà devant une tombe toute fraîche, du côté droit du chemin. Elle y posa 4 assiettes de nourriture et un bol de riz qu'elle avait apporté, et pleura abondamment. Après avoir brûlé de la monnaie de papier, elle resta assise sur le sol comme hébétée. On aurait dit qu'elle attendait quelque chose, mais elle-même n'aurait su dire ce que c'était. Une légère brise se mit à souffler, agitant ses cheveux courts qui avaient assurément beaucoup blanchi depuis l'année précédente. Une autre femme arriva sur le chemin. Elle aussi avait les cheveux à moitié blancs, et ses vêtements étaient en loques. Portant un petit panier rond tout abîmé, peint rouge, dont pendait un chapelet de lingots de papier, elle avançait en faisant 3 pas, puis en s'arrêtant pour souffler. Soudain, voyant Hua Tama assise par terre qui la regardait, elle eut un instant d'hésitation. Sur son visage blême apparut comme une expression de honte. Mais finalement, rassemblant tout son courage, elle se dirigea vers une tombe sur la gauche et posa son panier devant. Cette tombe et celle de Xiao Xuan était côte à côte. Seul le petit chemin les séparait. Hua Tama vit la vieille femme déposer 4 assiettes de nourriture et un bol de riz, puis pleurer debout un bon moment avant de brûler de l'argent de papier. Elle pensa en elle-même. Elle aussi, c'est son fils qui est enterré là. La femme fit quelques pas en regardant autour d'elle, puis brusquement, se mettant à trembler, recula en vacillant, les yeux fixes, le regard perdu dans le vague. Hua Tama, la voyant ainsi,
eut peur qu'elle ne devienne folle de douleur. N'y tenant plus, elle se leva, traversa le chemin et lui dit à voix basse.
« Allons, il ne faut pas se mettre dans cet état-là. Rentrons, cela ira mieux. »
La femme opina, les yeux toujours levés. Alors elle murmura comme dans un soupir.
« Regarde, là, qu'est-ce que c'est ?»
Uattama suivit du regard la direction qu'elle indiquait du doigt et s'arrêta sur la tombe devant elle. L'herbe ne l'avait pas encore totalement recouverte. La terre jaune apparaissait par endroits, en plaques très laides. Levant les yeux vers le haut du tertre pour l'examiner plus en détail, cependant elle ne put s'empêcher de sursauter. Elle pouvait nettement distinguer une couronne de fleurs rouges et blanches entourant le sommet en pointe du tertre. Toutes les deux n'avaient plus de bons yeux depuis déjà pas mal de temps, mais ces fleurs rouges et blanches étaient très nettement visibles. Il n'y en avait pas beaucoup, et elles n'étaient pas très vivaces, mais elles étaient disposées en rond, bien alignées. Uattama regarda attentivement la tombe de son fils et les autres, mais ces tombes-là n'avaient toutes que de petites fleurs toutes pâles, résistant au gel, éparpillées un peu partout. Alors elle eut soudain un sentiment de vide, de manque, et renonça à comprendre le fin fond du mystère. La vieille femme avança encore de quelques pas, observant minutieusement la terre, et dit comme pour elle-même.
« Elles n'ont pas de racines, elles ne sont pas venues ici toutes seules. Qui a bien pu venir ici ? Aucun enfant ne viendrait jouer ici, et quant aux parents, ils ne viendraient pas si tôt. Comment cela a-t-il bien pu arriver ?»
Elle s'absorba dans ses pensées et soudain, se mettant à pleurer, s'écria.
« Mon fils, tu as été la victime d'une injustice et tu n'arrives pas à l'oublier. Ta peine est toujours aussi grande. Alors aujourd'hui, tu as fait ce petit miracle pour moi, pour que je sache. C'est ça, non ?»
Regardant autour d'elle et ne voyant qu'un corbeau, perché sur un arbre dénudé, elle continua.
« Je le sais, mon pauvre enfant, ils t'ont enterré vivant, mais un jour viendra où ils auront à payer pour cela, le ciel sait tout. Ferme les yeux, ne t'en fais pas. Si tu es vraiment là et si tu m'entends, envoie-moi un signe. Dis à ce corbeau de venir se poser sur ta tombe. »
La brise était tombée, l'herbe sèche se dressait droit, raide, comme du fil de cuivre. Un son ténu vibra dans l'air, de plus en plus faible, jusqu'à mourir totalement. Tout était d'un calme sépulcral. Debout dans l'herbe sèche, la tête levée, les deux femmes regardaient le corbeau. Celui-ci restait perché sur la branche toute droite, la tête rentrée, comme coulée dans du bronze. Le temps passa. Il y avait de plus en plus de gens autour des tombes, de tous âges. On les voyait passer au milieu des sépultures comme des fantômes. Sans pouvoir se l'expliquer, Uattama se sentit comme libérée d'un grand poids. Elle eut alors envie de rentrer chez elle et le suggéra à la vieille femme.
« On ferait mieux de rentrer !»
Celle-ci soupira et ramassa la nourriture d'un air abattu. Elle hésita encore un peu, puis se mit lentement en route, en continuant à marmonner.
« Comment cela a-t-il bien pu arriver ?»
Elle n'avait pas fait 20 pas que brusquement elles entendirent derrière elle un grand cri.
Ah ! Ah !
Elles se retournèrent terrifiées. Ce n'était que le corbeau. Elles le virent étendre les ailes, prendre son envol, et s'élançant comme une flèche, piquer droit vers le fond du ciel. Avril 1919.